J'aimerais qu'on parle des facteurs de succès et des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui vous semble des éléments importants dont il faut tenir compte là, pour que ça fonctionne? Parce que, comme tu le disais, parfois, il y a des activités, on pense que ça va fonctionner, que ça va être très efficace, et finalement, en bout de ligne, ça ne l'est pas. Donc, quels sont les facteurs de succès et les bonnes pratiques que vous avez observées jusqu'ici? Alors, pas qui veut commencer? Oui, vas-y.
Pour commencer, notre comité, dans le fond, c'est une initiative des étudiants, des parents étudiants. Fait que le comité en soi, c'est vraiment un excellent succès pour les étudiants. Aussi, le fait de faire la promotion de la politique auprès des départements, on sent que les profs sont plus ouverts à vouloir comprendre la politique, à comprendre la réalité des étudiants. Et aussi, on collabore étroitement avec l'interculturel à l'école et avec les autres départements. Puis le bon succès qu'on pourrait reproduire à chaque session, dans le fond, qu'on fait, c'est une sortie avec les parents étudiants, avec le comité interculturel, le comité autochtone aussi. Fait qu'on va à la cabane à sucre à chaque hiver, si je ne me trompe pas. Puis, oui, c'est ça, à la session d'hiver. Puis après, pendant l'automne, dans le fond, on regarde si on va aux pommes. Fait que cette activité-là, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Aussi, on essaie d'aller chercher d'autres étudiants dans d'autres départements, un peu comme tu parlais. Là pour Noël, on a un événement thématique Grinch. On est allé chercher des étudiants dans le département design de présentation. Fait que ça permet de faire connaître vraiment c'est quoi la réalité d'un parent étudiant puis d'impliquer un peu tout le monde.
Mm-hmm. D'autres éléments sur les facteurs de succès, les bonnes pratiques?
Je peux rebondir un peu dans la même veine, l'importance d'avoir des comités de parents étudiants qui soient structurés et qui soient impliqués dans les processus. Nous, la politique qui a été faite à l'UQAM, c'était une initiative des parents aux études, puis ça a été un bon 14 ans de lutte. Là. J'ai retrouvé des documents d'archives qui datent. Là. Vraiment, je pense que ça fait une différence dans le sens où ça amène aussi une perspective qui est intersectionnelle, justement, qui est, c'est ça la réalité des parents aux études, c'est pas un concept de une administration va imaginer c'est quoi un parent, c'est quoi la réalité familiale, ok, ça ressemble à ça, puis on va l'appliquer. Non, là, ça venait de la réalité des parents. Puis moi, j'ai préparé cette présentation avec Awa et Salimata, qui sont sur notre CA au CSPE. Puis les deux sont dans des familles transnationales, avec le père de leurs enfants qui est à l'étranger, donc c'est une autre réalité. Awa a été la représentante des personnes étudiantes de l'international sur le comité qui a élaboré la politique. Puis moi, j'étais sur ce comité aussi, comme représentante étudiante. On a aussi une bonne représentation de familles queer qui étaient sur ce comité. Puis c'est quelque chose qui n'a pas été une demande de l'UQAM. Il se trouve que nos autres parents aux études impliqués étions plein de familles queer et plein de familles transnationales. Donc ça a fait que notre vision de ce qu'on voulait comme politique, ce n'était pas une politique pour les parents, on voulait une politique familiale, donc qui englobe une vision large de c'est quoi une famille. Ce n'est pas un papa, une maman dans un appartement et un enfant dans un appartement. Il y a des réalités qui sont très différentes. Donc, je peux prendre ce qu'on a insisté pour avoir dans la politique et qui aurait probablement pas été le cas si ça avait été juste piloté par l'administration et si on n'avait pas été pendant des années présent à toutes les rencontres, à toutes les étapes de l'élaboration de la politique sur le moindre détail de chaque mot. On a insisté pour que le statut de parent soit attribué dès le début de la grossesse et non pas après 20 semaines, parce que le premier trimestre, c'est déjà assez difficile. Et on considère comme parent quelqu'un qui a une autorité parentale ou qui habite avec un ou des enfants mineurs qui peuvent être de la personne conjointe. Donc, si vous avez une autorité parentale, que votre enfant est à l'étranger, vous êtes parent quand même, parce qu'il y a tout un pan de la recherche qui se fait aujourd'hui sur le care qui se fait de manière transfrontalière. C'est une charge de care aussi. Ça peut être, si vous habitez avec l'enfant de votre conjoint-conjointe, vous vous en occupez aussi. C'est pas vrai que vous faites comme si cet enfant n'existait pas. Il y a les cas de tutelle aussi. Il y a les personnes qui sont en processus d'adoption. Ça concerne des familles queer, beaucoup. Il y a aussi si c'est un enfant majeur atteint d'une déficience fonctionnelle majeure, etc. Et on a tenu à ce que les personnes proches aidantes soient incluses dans le processus parce que pour nous, quand je dis nous, c'était les personnes étudiantes, qui, parents qui étions sur le comité d'élaboration de la politique. On ne concevait pas qu'on puisse parler de conciliation famille, travail, études en ayant une vision de la famille qui soit uniquement des enfants. La famille, c'est beaucoup plus large que ça. Ça inclut, justement, ça a été mentionné, la proche aidance. La proche aidance, ça concerne aussi des personnes dès le secondaire, en fait. Il y a des gens qui sont très, très jeunes qui font de la proche aidance, puis ça a un impact sur tout leur parcours. Et on a tenu aussi à ce que, dans la définition de la proche aidance, on axe ça, on la définisse par le lien de dépendance et non pas par le lien de sang. Parce que la proche aidance, ça se fait aussi pour des personnes qui n'ont pas de lien familial direct avec nous. C'est le cas notamment dans beaucoup de familles queer. Ça a été très difficile de faire accepter par l'institution qu'on allait parler de proche aidance et qu'on considérait que c'était un même sujet et non pas « Oh, faisons une politique pour les parents, on fera une politique pour les proches aidants plus tard ». Ça a été une bataille qu'on a faite pour avoir les deux en un parce qu'on considère que c'est le même sujet. Et surprise, finalement, on découvre que l'UQAM est bien fier de mettre ça de l'avant dans ses communications. Donc, on est très, très content de s'être obstiné là-dessus puis d'avoir été ambitieux, parce que finalement, c'est aussi quelque chose qui peut être mis de l'avant par la suite par l'université quand elle fait la promotion de la politique. Puis aussi, je veux parler du processus. Le processus qui a mené à cette politique, c'est pas seulement le résultat qui est plus à l'image de ce qu'on a voulu, mais le processus qui a fait que ça a conduit à beaucoup d'épuisement. Là, c'était pas tout rose. Beaucoup de parents aux études qui sont passés proches ou ont été en burn-out. Là, mais ça, ce que ça a amené, c'est que ça nous a amené à faire énormément de sensibilisation en amont. Donc, quand la politique est adoptée maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours des profs qui sont ou des personnes dans le personnel qui sont même pas au courant que ça existe ou qui sont pas vraiment sensibilisées, qui savent que ça existe, mais qui n'ont pas profondément intégré les principes. Mais il y a quand même une grande sensibilisation qui a été faite en amont. Par exemple, nous, on s'est arrangé pour faire adopter par toutes les associations étudiantes facultaires, on a fait adopter des résolutions dans le sens de soutenir la cause des parents aux études. Ça fait aussi que dans la convention collective du syndicat des personnes étudiantes travailleuses, c'est déjà prévu qu'on accepte les parents qui sont à temps partiel et qui ont un statut réputé temps plein. C'est pas une nouvelle lutte à mener encore parce que ça a été fait en amont. On a une représentation des parents aux études de l'international aussi sur le comité qui va être en charge de l'application de la politique. Ça aussi, ça a été une bataille de notre part parce qu'on réalise que beaucoup de nos parents aux études sont soit migrants-migrantes, soit étudiants de l'international. On a des initiatives. Awa, justement, qui a participé à préparer ça avec moi, puis qui était sur le comité d'élaboration. Elle s'est impliquée dans le programme Allo de l'UQAM, qui s'occupe de l'accueil des étudiants internationaux. Elle s'était rendue compte que les sorties organisées n'étaient absolument pas adaptées pour les parents aux études. C'était des sorties qui n'étaient pas du tout accessibles pour ces personnes-là. Et avec son action individuelle de sensibilisation au programme Allo, maintenant, ils ont mis en place des jumelages de parents aux études à parents aux études à travers le programme. Donc, c'est des parents aux études de l'international qui sont jumelés entre eux autres. On est aussi allé chercher des alliés au sein de l'administration. Quand on a des alliés, on les garde, on les aime. C'était vraiment... on a essayé de mettre des personnes parents aux études dans tous les endroits où il pouvait y avoir de la représentation étudiante, dans tous les comités institutionnels. Il ne faut pas se contenter d'un comité institutionnel qui est chargé de cette question spécifique et supposer que les comités vont se parler entre eux. Les comités institutionnels ne se parlent pas entre eux, on sait comment ça se passe. Donc, on a essayé d'avoir des personnes sur les comités vie étudiante, merci Annie. Donc, dans les CV, on a une personne qui était impliquée dans notre cause OCA de l'UQAM. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, d'avoir de la sensibilisation en amont et partout en même temps. C'est beaucoup d'énergie, bon courage.
Ha ha ha. Merci. Je pense que c'est intéressant. Ça illustre beaucoup, justement, comment la participation des personnes et surtout, vous mettez l'accent sur la diversité. Tenir compte de la diversité des situations, des origines, l'international et tout. Bon, on peut le dire comme ça en théorie, mais rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui va nous rappeler la réalité concrète et comment ça se manifeste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter des choses? Oui, voilà.
Dania, tu as terminé en parlant des alliés. Donc, je vais poursuivre là-dessus. Chez nous, en fait, les alliés, c'est vraiment crucial. J'en ai parlé tantôt au niveau stratégique. On a la vice-rectrice à l'enseignement, recherche, création, qui a été un, je dirais, notre champion, notre cheval gagnant qui a porté ce dossier-là. Après ça, ça a été descendu jusqu'au service à la communauté étudiante où nous aussi, on est là pour toujours avoir la veille pour saisir les opportunités, en fait. Puis je dirais que chez nous, c'est pas mal ça. En tout cas, on est encore au balbutiement, mais pour le moment, ce qui est gagnant, c'est de saisir toutes les opportunités pour s'adresser, en fait, à toute la communauté universitaire pour rappeler la politique et sensibiliser. Donc, par exemple, en tant que service à la communauté étudiante, à chaque début de session, on interpelle tous les modules, tous les directions de modules d'UR, département, pour dire, si vous voulez, on peut aller faire une présentation chez vous, de nos services. Donc, on peut s'adresser aux professeurs et chargés de cours dans les assemblées départementales, on peut s'adresser aux étudiants, et à chaque fois qu'on vient présenter nos services, on parle toujours de la politique également. Politique, conciliation, famille, études. Donc, pour nous, ce sont des petites occasions où on en parle. On a aussi été invité par le service de pédagogie universitaire qui recevait, qui faisait une séance d'accueil pour les nouveaux profs et chargés de cours. On est allé encore une fois parler de la politique. Donc, lorsque je parle vraiment au niveau des profs, au niveau des membres du personnel, on a ces occasions-là, mais au niveau de la population étudiante, on essaye aussi de saisir différentes occasions. Là, je vous ai parlé de la rentrée. On a fait des kiosques à la rentrée, mais dans le PASME, dans le plan d'action santé mentale, on a différentes actions de sensibilisation. Exemple très, très concret, en novembre, c'est la campagne « Pose ton écran », où on incite toujours notre population étudiante à participer. On envoie un courriel de sensibilisation. L'année dernière, on a inclus une section « Ressources pour les parents ». Tous les parents ont, vous savez, là, les enjeux des écrans avec les enfants. Donc, on a fait une section pour les parents. En passant, on a une politique « As-tu ton statut ?» Donc, on essaie de saisir chacune des opportunités. Puis quand je vous disais qu'à chaque mois, on monitore, on va chercher, on a combien d'étudiants. Donc, chacune de ces actions-là, on vient la répertorier. Puis, ça fait des données aussi pour notre projet pilote. Donc, on vient se rappeler quelles actions on a faites à chaque année. Ah oui, c'est vrai, on l'a mis dans la campagne « Pose ton écran », on va le remettre l'année prochaine. Donc, chaque petite opportunité devient pour nous un moment pour faire valoir cette politique-là. Je vous l'ai dit, c'est une politique de sensibilisation. Donc, chaque moment est précieux pour s'adresser à toute notre population universitaire.
Il y a d'autres commentaires là-dessus? Oui, voilà.
Oui, en fait, juste dire que moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Là, je travaille avec les API, avec l'aide financière, avec la direction de la formation continue, avec tout plein de monde. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir une ressource dédiée dans un établissement. Ça aide beaucoup. Tantôt, je l'ai mentionné aussi, le guide d'application de la politique. Si vous êtes à faire une politique, je vous le conseille fortement parce que ça s'adresse à tout le monde avec les responsabilités autant pour les professeurs, la direction des études, que les parents aux études qui ont la responsabilité aussi de trouver, de proposer des solutions quand il arrive des petits problèmes. Un bon coup, je trouve, c'est qu'à chaque fin d'année, on fait un sondage de satisfaction des services qu'on envoie à tous les parents aux études. Fait que j'ai des témoignages, j'ai des échelles qualitatives. Je le vois à chaque année, où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on a à améliorer. Fait que ça, c'est vraiment... Puis aussi, ben, comme je disais tantôt, notre entente avec Moisson Québec, qui nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'aide alimentaire. Sinon, on a fait des petits projets inspirants, là, qui ne sont pas du tout de l'ordre de la structure, là, mais dans le local des étudiants, moi, je leur demande des photos de leurs enfants. Puis les photos des enfants sont accrochées sur les murs, puis ils sont fiers. Ça fait un sentiment d'appartenance. Puis ça fait un rappel aussi de pourquoi je suis en train de donner autant de temps et d'efforts. Ah oui, j'ai un but pour ma famille. Mm-hmm. Un petit projet.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Sinon, je passerai peut-être à la question, parce que, bon, vous avez évoqué l'importance de l'engagement, du soutien des leaders, des champions, un champion ou une championne face à ce sujet-là.